enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Prononcer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Maintenant, juste un instant avant qu'on poursuive le texte. Là, ce que Jésus est en train de faire en ce moment, c'est quelque chose de très, très prophétique. Nous le savons que c'est prophétique, mais eux ne savent pas le déroulement des choses. En ce moment, il n'y a pas le consensus que voici, c'est le Messie qui nous parle dans la synagogue. C'est le gars du village, c'est le fils de Marie-Joseph qui est là. Et là, Jésus déroule le texte et la prophétie d'Isaïe, en sachant fort bien qu'eux savent que c'est l'espérance d'Israël, cette prophétie-là. Ils savent, ayant lu Isaïe, chapitre 61, le verset 1 et 2, que c'est quelque chose qui est une espérance profonde dans leur cœur, une conviction qu'un jour on va avoir accès à ce Messie-là. Mais là où les choses vont commencer à changer, vous allez voir dans la suite de la lecture, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu sois fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, c'est là le point crucial ce matin, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi une réaction si véhémente de la foule? Quelques minutes à peine avant, il louait, était fasciné par sa sagesse et tout ça, et il l'acclamait. Mais à partir du moment où ce que Jésus a fait, c'est qu'il a fait une remise en question de ce qu'eux faisaient. Parce que, en prenant l'exemple de la veuve de Sarepta, puis en prenant l'exemple le Naaman le Syrien, ils les confrontent à eux-mêmes, et le fond de cela, c'est qu'ils les confrontent à leur propre incrédulité. Lorsque eux demandent à Jésus, « Fais ici, dans ta patrie, ce qu'on t'a dû faire ailleurs », eux ne savent pas qu'un des facteurs qui fait que Jésus ne fait pas ces miracles-là, c'est leur propre incrédulité. C'est qu'il y a un contexte qui ne prédispose pas à ce que Dieu agisse. Et ce qui est vrai pour eux, est aussi vrai pour nous. Mais maintenant, je veux pas vous reprocher votre incrédulité, je veux pas vous me ramassiez, vous me lynchiez, pendre après l'arbre. Il y a une chance, c'est des petits arbres ici en avant, j'ai pas de chance de tomber trop haut. La question est, c'est que vous et moi, à chaque jour de notre vie, on est confrontés à des choses comme ça. Eux veulent un miracle, nous voulons un miracle. Fais ici ce que tu as fait ailleurs. On veut voir. En réalité, ils savent pas que ce qui peut permettre à Jésus d'agir, c'est quelque chose à l'intérieur d'eux. Maintenant, il y a deux aspects à cette image-là. Il y a l'aspect de la veuve de Sarepta et l'aspect de Naaman de Syrie. Maintenant, je ne prêchais pas sur Naaman, mais on va aller voir qu'est-ce, dans la vie de cette veuve-là, une histoire qui prend place 9 siècles auparavant, donc que Jésus connaît et qui va utiliser l'histoire d'une personne anonyme, d'une dame qui n'est pas une chef d'État, qui n'est pas une grande prophétesse, une dame, je dirais, anonyme. On ne sait rien d'autre, sauf qu'elle vivait à Sarepta, un petit village tout près de Sidon, et que le prophète est entré en contact avec elle. Et ça symbolise pour moi tous les anonymes de ce monde, des gens qui, dans l'espace de leur vie, dans leur vie quotidienne, devant toutes sortes de circonstances, devant les défis, on a l'impression parfois que la foi, c'est quelque chose pour les hommes de Dieu, c'est quelque chose pour les grandes œuvres, pour les grandes églises, pour les grands missionnaires, pour les grands projets mondiaux, internationaux. Mais je veux vous faire réaliser ce matin que la foi, on en a besoin pour notre vie. C'est la foi dans la vie. C'est la foi dans notre vie, c'est la foi dans ma vie tous les jours. J'ai besoin, c'est l'air que je respire. C'est les moyens que nous sommes à disposition pour tirer le meilleur parti de ce séjour sur terre quand je suis ici. Comme croyant. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Êtes-vous avec moi ce matin? Merci. Je pensais que je m'étais trouvé tout seul tout d'un coup. Allez avec moi à la seconde portion du texte. Un texte, encore une fois, il va avec 6 diapositives pour relater cette histoire de cette dame. Dans le premier chapitre du livre, le premier roi, c'est-à-dire le chapitre 17. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots au prophète Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Et se leva, il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il lui dit, « Ne crains point, entre ou rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie qui résidait chez elle. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration, le souffle le quittait. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'étais reçu comme un autre? » Il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie, il prit l'enfant et descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Cette dame-là, cette veuve-là, a vécu des moments difficiles, a été mise à l'épreuve dans un certain nombre de choses. On pourrait dire qu'elle était une fois à Sarepta, un petit village, une veuve qui ne trouvait pas la vie facile. Une dame qui a compris, comme ça va apparaître à l'écran, que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut et on a trop souvent ce que l'on ne veut pas. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et qui surviennent. On aimerait pouvoir contrôler les circonstances. La semaine dernière et la semaine précédente, vous avez remarqué en lisant les nouvelles, en écoutant les nouvelles, tout ce qui s'est abattu sur le Liban. Plein de pauvres gens, de villages, se retrouvent avec des choses qui leur tombent sur la tête, qu'ils n'attendaient pas. Le pays était en reconstruction, tout était bien, sans juger de toutes les histoires politiques. Je vous explique que c'est un drame dans la vie de gens. Et nous, c'est peut-être pas des bombes qui nous tombent sur la tête, mais souvent, c'est autre chose, c'est des mauvaises nouvelles, c'est des circonstances financières difficiles. On est pris avec une vie, souvent, avec lesquelles on doit être capable de tirer des ficelles. Et souvent, l'impression qu'on a, c'est qu'on aimerait avoir une espèce de repos, que la vie puisse aller toute seule, que ça peut être un grand fleuve tranquille dans lequel on va se coucher dans notre bac et se laisser flotter jusqu'à temps qu'on arrive à la destination. Mais on est confronté souvent à toutes sortes de choses. Et cette veuve-là est prise dans une situation dans laquelle la sécheresse est dans le pays, la famine est dans le pays, ça fait 3 ans et demi que ça dure, et tout ça est mis à l'épreuve. Elle est confrontée, et ce que je vais un petit peu élaborer avec vous ce matin, à 7 défis que je pourrais qualifier des 7 défis de la foi de cette dame-là, mais 7 défis auxquels on a fait face, nous, dans certains moments de notre vie, quand notre foi est mise à l'épreuve. C'est facile de croire quand ça va bien. c'est facile de croire quand la vie nous porte très bien. On est à l'aise dans les circonstances. Mais à partir du moment où les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait, dans nos relations, dans notre vie de famille, dans notre travail, dans nos amitiés, peu importe le domaine dans lequel c'est, notre foi est mal à l'épreuve. On se retrouve devant une série de défis qui sont à la foi, je pourrais peut-être un petit peu dire, une course à obstacles dans laquelle il faut pouvoir passer et triompher de ces éléments-là afin d'avoir accès à une réponse satisfaisante dans notre condition, à la manifestation des promesses de Dieu et dans certains cas, bien sûr, au miracle divin qui va se manifester dans notre vie. Premier défi de la veuve, le défi de la vérité. Le texte mentionne, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. » Étant le texte, vous avez remarqué, s'adresse au prophète. Le texte mentionne, Dieu dit au prophète qu'il a parlé à une veuve. Maintenant, si Dieu parle au prophète, il dit au prophète, j'ai ordonné à une veuve, c'est certain qu'on présuppose qu'il a déjà parlé à la veuve et que la veuve, à quelque part, s'attend à ce qu'un jour il y ait un prophète qui se présente dans sa vie en disant, maintenant, je sais que Dieu m'avait parlé et je vais nourrir ce prophète-là. Maintenant, après 3 ans et demi de sécheresse, on ne sait pas dans quelles circonstances que Dieu a parlé à la veuve, mais on sait, parce que le texte mentionne, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Maintenant, c'est fascinant comme phénomène, parce que là, on a une inversion des choses. Règle générale, moi, si j'avais été aveugle, je chercherais le prophète pour que le prophète puisse faire un miracle pour me nourrir, parce qu'il ne me reste plus grand-chose dans la vie. Là, on assiste à l'inverse. Une pauvre veuve qui a 2 bouts de bois, un petit peu d'huile dans un pot, puis un peu de farine, puis le prophète, ça a l'air exploiteur. Le prophète va venir chercher la dernière pitance de la pauvre dame. Ou bien la dame qui compose avec Dieu, t'es certain que comment veux-tu que je nourrisse le prophète avec ce qui me reste dans tes mains? J'en ai juste assez pour moi, pour mon fils, pour un dernier repas. Pourquoi je parle du défi de la vérité? Parce que la vérité, c'est ça sur quoi on repose notre vie. Je ne parle pas de la vérité dans le sens absolu du terme. Je la mets dans le sens qui est défini en haut, sur les écrans, l'état de quelqu'un qui possède des convictions, des principes, des normes sur lesquelles il base sa vie. Vous savez, dans les temps difficiles, c'est vous, ce qui est ébranlé dans nos vies, c'est nos vérités. C'est ça ce qu'on s'appuie dans la vie. Et si c'était pas vrai? Est-ce que c'est vrai tout ça? Là? La foi, Dieu, là. T'as vu, j'ai cru pour rien, là. Récemment, dans une discussion avec mon fils William dans la voiture, mon fils me dit, papa, moi, là, si c'est pas vrai tout ça, là, ça veut dire que j'ai cru pour rien? Là, ça veut dire que j'ai perdu tous mes dimanches matins où j'aurais pu aller m'amuser. OK? Maintenant, j'ai oublié de faire comprendre que c'est pas que je suis pas les travaux forcés, là. C'est pas, la foi, c'est pas ça. Mais il reste quand même que le doute qui émerge dans la tête d'un petit garçon de 12-13 ans, c'est les doutes qui nous assaillent. Et si c'était pas vrai, tout ça? À cause de ça, on l'a tous vécu, on a l'impression que Dieu nous a réellement parlé, mais avec le temps qui s'étire, les délais qui se manifestent, on ne voit pas la manifestation de tout ça, on se dit, coudon, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est bien vrai? Et là, notre foi est mise à l'épreuve devant ce que j'appelle ce défi de la vérité. Maintenant, il y a une leçon pour chacun des défis que je vais voir avec vous ce matin, il y a une leçon à tirer de tout ça. Et la première leçon de la veuve, c'est si la veuve s'était refusée à croire ce que Dieu lui avait dit, c'est pas vrai tout ça, elle n'aurait pas fait ce qu'il lui demandait. Elle aurait résisté. Ça veut dire que quand le prophète serait arrivé, puis il demande de l'eau, il dirait, écoute, prends-le, ton verre d'eau, mon âme, arrange-toi avec ça, je suis pas ta servante, moi. Et quand il lui aurait demandé à manger, elle aurait refusé. C'est la foi de la veuve qui l'a amenée à faire ce qu'elle a fait. La leçon, c'est si elle avait refusé de croire, il y a des choses qui ne seraient pas passées. Et le défi que je mets devant vous pour vos vies personnelles, c'est qu'il y a des moments donnés dans la vie où si on ne fait pas ce qu'on doit faire, on n'aura pas ce qu'on pourrait avoir. Il y a des choses qu'on doit faire dans la vie. La plupart d'entre vous, vous avez été élevés avec cette dimension très évangélique de la grâce. Mais il y a eu un détournement de la grâce dans la main des gens. Je sais que le salut est gratuit. Mais résoudre les choses de la vie, composer avec ce qu'on pourrait avoir et on pourrait faire de plus, ça mène une mise en pratique. Fais cela et tu vivras, la Bible dit. Fais cela et tu auras accès à quelque chose. Donc, il y a des choses qu'on doit faire, non pas pour être plus sauvé, mais pour s'approprier des promesses que Dieu a pour chacun de nous. Leçon 1, si la veuve s'était refusée à croire ce que Dieu lui avait dit, elle n'aurait pas fait ce qu'il lui a demandé. La foi n'est pas de croire sans preuve, mais de faire confiance sans réserve. On n'aura jamais l'éclairage complet sur une situation. Deuxième défi chez la veuve, le défi de l'insécurité. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Ça, c'est ce qu'elle possède. les seules ressources qui lui restent, ce qui reste cette veuve-là, c'est son fils, elle est veuve, elle n'a pas personne pour pourvoir aux besoins, elle n'a pas de mari qui va prendre soin d'elle dans la culture de l'époque, elle est seule avec son fils, elle doit pourvoir aux besoins de son fils, et la seule chose qui lui reste dans les mains, quand elle regarde ça, c'est qu'il me reste juste un petit peu d'huile, puis un peu de farine. C'est tout ce qui me reste. OK? C'est tout ce que j'ai. Et le texte mentionne que c'est justement cette réalité-là. C'est-à-dire qu'à partir, c'est pas tant ce qu'elle a, c'est qu'après qu'elle va avoir donné ce qu'elle a, elle n'a plus rien. Elle, c'est fini. C'est dur pour nous, occidentaux, de comprendre ça, parce qu'on c'est rare dans le système dans lequel on a été éduqué, d'une société qui pourvoit beaucoup aux besoins de ses membres, de se retrouver au bout de nos ressources. Très peu de gens pourraient dire ici, j'ai été 10 jours sans manger. Au Québec, on voit pas beaucoup ça. Je dis pas que ça peut pas arriver dans la vie de certaines personnes. Je ne juge de rien. Je vous dis, on vit pas des temps de famine comme certains pays où ce que là, t'es confronté aux limites qui sont là. Et là, elle sait que c'est la mort. C'est la dernière étape avant de mourir. C'est juste ce qui me reste. C'est juste ça qui me reste. Alors, quand il nous reste simplement ces derniers éléments, ces dernières choses dans notre vie, c'est pas ce qu'on fait, on se cramponne à ça, parce qu'on dit, je vais sombrer, si j'ai plus ça, c'est fini. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un emploi quelconque, dans lequel, peu importe, on se cramponne à tout ça. L'insécurité, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, et qui succombe à la peur face aux circonstances sur lesquelles il n'y a pas de pouvoir. Vous savez, la sécurité, là, ça n'existe pas. C'est une notion, ça, c'est un concept, j'appelle ça un effet placebo. Ce qu'on fait à croire qu'il n'y aurait pas de problème, donc l'espace d'un temps, vous êtes capable d'être correct. C'est un peu comme un parent qui dirait à son enfant, tu n'as pas la vie tellement facile. Ou l'enfant, il va le croire parce qu'il n'a pas à faire face à la vie parce qu'il y a une zone de protection qui s'appelle la zone parentale qui fait que c'est nous qui absorbons les chocs. Mais un jour, il va être confronté à la réalité, que la vie, c'est pas vrai qu'elle n'est pas facile, elle est difficile. Donc la sécurité, ça n'existe pas totalement. On a vu des grandes compagnies qui ont été ébranlées dans certaines circonstances. Mais on veut croire, quelque part, par le fait qu'on a de l'argent en banque, par le fait qu'on a un emploi, qu'on a la sécurité. C'est une illusion jusqu'à un certain point. Le défi auquel elle doit faire face, elle, c'est vraiment le défi de l'insécurité. Après cela, c'est vrai, j'ai plus de support après tout ça. Seconde leçon à tirer de la vie de cette dame-là. Si la veuve s'était accrochée à ce qu'elle avait, elle n'aurait pas eu accès à ce que Dieu avait. Si je me cramponne à ça, puis je vous le dis, c'est un défi de sécurité, parce que on s'accroche à des choses, on s'accroche à des objets, à des lieux, à des endroits. Et on reste dans notre zone de confort. Puis à un moment donné, il arrive un instant où ce que Dieu me demande quelque chose dans lequel je dois quitter ça pour arriver à là. Je peux pas être sur les deux niveaux en même temps. Si je quitte ça, je vais perdre, et la question c'est, est-ce que je vais le trouver de l'autre côté? Ah, si la veuve dit au prophète, oh là, s'il aimerait juste ça, moi je vais privilégier moi et mon fils en même temps. T'es un prophète, tu t'arranges avec ton Dieu pour voir tes besoins. Vraiment, elle dit ton Dieu à toi. Elle dit pas mon Dieu à moi. La réalité, c'est que c'est une femme de foi, puis elle a relevé le défi de l'insécurité. Si elle s'était juste accrochée à son sauvegarde pour ça, moi, je me reste avec ça, elle avait passé sa vie à rester comme ça. Mais là, elle est à l'étape cruciale où ce qu'un miracle va se produire dans sa vie, parce qu'elle est capable de confronter ça. C'est juste ça qui me reste, mais parce que je crois en Dieu, je vais le donner. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes d'accord avec moi, là, si vous êtes un être humain ce matin, on est tous confrontés à un moment donné où il faut lâcher quelque chose. Puis c'est dur de lâcher des choses. On a mis à desserrer les mains de ces choses dans notre vie, de ces objets. Relâcher, probablement, la stratégie la plus difficile à faire dans la vie. Parce qu'on a peur, parce qu'on est insécure, on ne veut pas lâcher ça, on se cramponne à tout ça. Il y a une légende qui existe, quelqu'un me disait, on appelle ça aussi la parabole de la pomme. C'est l'histoire d'un gars qui s'est retrouvé dans le désert. Après des jours et des jours, épuisé, assoiffé, il se trouve dans une espèce de, on appelle ça en québécois un shack, une espèce de petite cabane dans le désert, quelque part, toute déglingandée, plus de vite après ça et tout ça. Et alors, il voit à l'intérieur de cette petite maisonnette-là une pompe. Puis là, il s'approche de la pompe, puis là, il a soif. Puis la pompe, c'est l'espoir, c'est la possibilité que les choses peuvent changer. Enfin, je mourrai pas, je vais pouvoir m'abreuver et tout ça. Il se met à pomper, puis s'aperçoit que la pompe est déchargée. Il dit qu'elle peut pas, il y a de l'air dedans, puis elle peut pas faire sortir cette eau-là. Puis en regardant tout autour, il s'aperçoit qu'il y a une cruche. Avec un mémo sur la cruche qui s'est indiqué, mettre l'eau dans la pompe pour pomper et avoir accès à l'eau. Maintenant, il y a deux choix, mais vous le voyez bien, là, l'image. Ou je bois l'eau de la petite cruche, puis je temporairement repue un petit peu dans mon besoin. Ou bien je prends le risque de charger la pompe avec cette eau-là, puis que ça fonctionne pas, puis j'ai plus d'eau, j'ai pas plus avancé. La légende raconte, la parabole raconte que cet homme en question a pris de l'eau, puis de transférer dans la pompe, s'est mis à pomper, puis il a eu de l'eau à volonté, puis il a pu se rassasier à volonté. Le texte mentionne aussi, maintenant, faites la même chose. Remplissez la cruche et laissez-la pour la prochaine personne qui va être égarée. Il y a des leçons là-dedans. Là. C'est une parabole, c'est une image, c'est une métaphore, c'est une représentation, mais qui démontre encore une fois le dilemme dans lequel nous avons parfois de lâcher des choses, de relâcher des choses. Et la veuve, elle l'a compris. Si je lâche pas ça, j'aurai pas accès à autre chose. Si je me cramponne à ce que j'ai, j'aurai pas accès à ce que Dieu a pour moi. Je peux pas sauvegarder les deux. J'aimerais bien ça pouvoir le faire. On aimerait tout ça dans ces moments-là pouvoir le faire, mais on réussit pas à le faire. Le défi de l'insécurité. Celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour gagner ce qu'il ne peut perdre est un sage. Jim Elliot. Troisième défi de la veuve. Le défi de la fatalité. Regardez bien le texte. Me voici en train de ramasser du bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Est-ce qu'il y a un verset plus triste? Un verset plus fataliste? Un verset plus final que ça? La dernière scène, version terre-à-terre humaine. C'est mon dernier repas avec mon fils. Je ne sais pas comment elle a expliqué ça à son fils, que c'était le dernier repas. Je ne sais pas si elle lui a expliqué. On pourrait s'imaginer toutes sortes de choses, mais c'est son dernier repas. La fatalité, c'est que maintenant, quand elle s'exprime ainsi, c'est mon dernier repas, je fais manger après ça, on va mourir. On rentre et on meurt. Essayez d'imaginer encore une fois. Vous avez eu l'annonce d'une maladie ou quelque chose, le médecin vous dit, vous rentrez et vous mourrez, là. Vous ne sortirez pas d'ici. Vous imaginez tout ce que ça éveille à l'intérieur de soi. Une fatalité, une conviction. Bien des gens, à ce moment-là, abandonnent, baissent les bras en disant, c'est fini, voici mon destin, voici ce qui m'arrive. Mais la veuve, dans ce contexte-là, a relevé un défi supplémentaire. Elle a compris une leçon nouvelle. Si la veuve, elle croit, l'essence de sa vie, c'est la foi. Si la veuve n'avait pas cru à ce que Dieu voulait, elle n'aurait pas eu accès à ce que Dieu voulait pour elle. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Souvent, on est confronté à ce qu'on croit que la vie veut nous offrir, puis on oublie de regarder à ce que Dieu lui veut. Il y a un combat entre, parfois, je dirais même deux volontés, en ce que moi, je pense que je mérite ou ce que faut que j'aille de la vie, puis au plan que Dieu a pour moi. Si je me cramponne à ce que moi, je veux, j'ai pas accès à ce que Dieu veut. La veuve a compris que si elle se met à croire, elle va être capable de dépasser la fatalité de son destin. Dans son cas, ici, c'est une question de vie ou de mort. Elle va être capable de dépasser ça en disant, il y a quelque chose d'autre pour moi quelque part, mais c'est la foi qui va rendre ces choses-là possibles. Il n'y a rien de visible à ce stade-ci. C'est le défi de l'adversité. C'est quoi l'adversité? C'est le sort contraire, les circonstances malheureuses qui s'imposent comme une épreuve à subir ou à surmonter. C'est ça l'adversité. L'adversité, c'est pas tant dans les circonstances que dans notre condition intérieure. C'est ça la réalité. Si la veuve n'avait pas cru à ce que Dieu voulait, elle n'aurait pas eu accès à ce que Dieu voulait. Le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Non pas quelque chose que l'on souhaite, mais quelque chose que l'on atteint. Le destin, c'est pas quelque chose qu'on laisse aller, c'est pas quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'au tout début de ce matin, je vous ai dit, on ne parlera pas de la vie en général comme si c'était quelque chose qui était préprogrammé d'avance, quelque chose qui peut changer. Le destin, c'est pas une question de chance, c'est une question de choix. J'ai sauté une étape, j'ai parlé du mot adversité, mais c'est le mot fatalité que je voulais dire. Le quatrième défi auquel elle a fait face, le défi de l'adversité. Je vous le dis, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Autrement dit, ce que vit la veuve, c'est pas une condition unique à elle. Le texte, Jésus a dit, il y a plusieurs veuves à l'époque. Maintenant, regardez bien la discrimination qui arrive, pas dans le sens que Dieu discrimine envers les gens, c'est que plusieurs personnes sont dans les mêmes conditions en même temps, mais c'est pas toutes les mêmes personnes qui réagissent à ces conditions-là. Il y en a qui s'en sortent pas dans la vie. Il y en a qui ne changent pas dans la vie. Il y en a que leur vie ne prospère pas, ne progresse pas. Pourquoi? On a l'impression que c'est Dieu qui est injuste. Et on blâme Dieu, comment ça se fait que tu fais rien pour ci, puis tu fais rien pour eux, tu fais rien. Mais on ne réalise pas qu'on a quelque chose en nous qu'il faut faire bouger Dieu. Que la foi, c'est le bras qui fait bouger la main de Dieu dans notre vie. Et que la foi est indissociable de notre vie. Au cas d'adversité, puis moi je vous le dis à cause de, vous savez ce que je fais comme travail, je peux discuter avec des gens on va voir qu'ils vont faire quelque chose pour s'en sortir, puis d'autres, non, c'est fini. Je baisse les bras, j'abandonne, c'est trop dur pour moi. C'est malheureux, mais c'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu donne l'occasion à tout le monde de saisir leur vie dans cette réalité-là. La leçon numéro 4, si la veuve n'avait pas cru que Dieu pouvait faire quelque chose, elle n'aurait pas eu accès à ce que Dieu, elle n'aurait pas su que Dieu pouvait, c'est-à-dire, je reprends. Si la veuve n'avait pas cru que Dieu pouvait, elle n'aurait pas su que Dieu pouvait. Ma foi rend les choses possibles pour Dieu. Parce qu'elle croit quelque part. Je crois, Seigneur, que tu peux faire quelque chose. Je crois que tu peux, oh Dieu. C'est sa foi qui fait bouger Dieu. C'est sa foi qui fait agir. C'est sa foi qui rend les choses possibles. Le défi de l'adversité, c'est ça. La conviction profonde que les choses peuvent changer. Vous ne saurez jamais comment vous croyez réellement tant que ce que pourquoi vous croyez ne sera pas une question de vie ou de mort. C'est facile d'avoir la foi quand ça va bien. C'est facile de parler à la foi. Et là, je vais prendre quelques instants pour parler à tous les exhortateurs de ici présents à cette église, à ces gens qui encouragent d'autres gens et qui disent, voyons, tant qu'à croire, tant qu'à faire, un peu de foi et tout ça. Ayez la compassion pour les gens. Il y a des gens qui sont dans l'adversité, qui sont dans des conditions où leur foi est mise à l'épreuve. Et c'est facile pour dire aux gens de croire quand vous n'êtes pas dans leurs conditions. Il faut avoir un peu cette humilité-là, il faut avoir un petit peu c'est la compassion, la capacité de comprendre et de ressentir ce que les gens éprouvent pour ne pas dire des choses comme ça. C'est facile de croire quand vous croyez pour les autres, mais vous ne croyez pas pour vous. Mais lorsqu'on est confronté à des moments de notre vie où on sent qu'il faut que je croie, mais croire pour moi, c'est comme un saut dans le vide. Et je ne sais pas si quelqu'un va me rattraper, je ne sais pas si je vais m'effondrer au travers de tout ça. C'est là que notre foi est mise à l'épreuve. Et la démonstration de cette veuve-là, c'est qu'elle a réussi à relever ce défi-là. Elle a tiré les leçons de cette condition-là. Êtes-vous avec moi encore ce matin? Cinquième défi, le défi de l'incrédulité. C'est ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Ce soit verset 14 du même chapitre. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'attitude d'une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre et qui manque de foi et qui sombre facilement dans le doute. Ça, c'est l'incrédulité. Une leçon bien simple là-dedans. Si la leçon numéro 5, si la veuve n'avait pas cru, elle n'aurait pas vu. La foi, c'est croire ce que l'on ne voit pas. Sa récompense est de voir se réaliser ce pour quoi on a cru. J'ai discuté avec ça en mots, là, ce que je vais vous passer comme message. Bien des gens disent, ça marche pas, ça marchera jamais, je suis pas convaincu, puis ils réalisent pas que leur attitude profonde empêche les choses de se produire. Je vais vous dire que l'incrédulité porte du fruit. Rien. Rien. L'incrédulité, ça change rien. L'incrédulité, ça vous confirme dans votre état. L'incrédulité, c'est la somme du désespoir. Je ne croyais plus. Quelqu'un qui ne croit plus, il n'y a plus de place dans la vie. Il n'y a plus d'espoir de voir les choses changer. Certains, en ce moment, vous disent, ouais, mais moi, je voudrais bien croire, mais tout d'un coup, que je crois pour rien. Et vous faites penser à des personnes, là. Des couples qui viennent me voir, me disent, écoutez, M. Morissette, là, ça va mal dans mon mariage. Moi, j'ai entendu parler de vous, là. Pensez-vous qu'en 2 mois, là, on peut sauver ça, ce mariage-là? Parce que moi, là, je veux savoir, là, je ne passerai pas 2 mois à travailler fort si ça ne marche pas. Mais vous, là, c'est vrai, ce qui monte à l'intérieur, des fois, on a le goût de dire, mais écoute, on va arrêter tout de suite, c'est tellement convaincu que ça ne marchera pas. Il y a des choses qui méritent l'effort. Il faut être capable de croire à ça. C'est quand on commence à croire, il s'enclenche à l'intérieur de nous un mouvement vers l'avant, puis dans notre vie, commence à se manifester des choses. On parle de la foi dans la vie, pas la foi dans mon cœur. Pas juste la foi à l'intérieur de moi, pas juste la foi comme concept, la foi qui se manifeste dans la vie qui fait que les choses commencent à changer. Et c'est pas évident, là. Je sais que c'est pas évident. Parce que c'est dur de croire quand ça va mal. Je donnais quelques exemples ce matin. Prenez l'exemple d'un petit garçon, par exemple, qui est discuté à l'école, et qui se fait, est au primaire, qui se fait 6 années d'affilée, qui est toujours en échec. Croire qu'il va réussir, là, c'est à l'opposé de toutes ses conceptions, de toute son imagination. Il peut pas croire. D'un autre côté, s'il ne croit pas, il ne réussira pas. Quelqu'un a dit un jour, un monsieur qui s'appelle Carl Menninger, a dit, les gens dans la vie échouent, non pas parce qu'ils sont vaincus, mais parce qu'ils se croient vaincus. Ils lâchent en cours de route. Ils abandonnent en cours de route parce que l'incrédulité a gagné littéralement sur la foi. Ils sont pas capables d'aller plus loin que ça. Le message de la veuve, c'est que celle-ci, elle a dépassé tout ça. Elle a eu cette victoire. Elle a relevé et gagné le défi d'incrédulité. Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Défi numéro 6, le défi de l'impossibilité. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu t'en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le défi de l'impossibilité. Encore une fois, j'ai de la misère avec ce verset-là. Et à l'espace de l'instant, il faut que je confesse, j'ai de la misère avec le prophète. J'ai de la misère avec le petit gâteau. Si je suis la veuve, je dirais, veux-tu avoir des chandelles avec ça? Un chausson aux pommes? Voulez-vous votre duo gonflé ou bien... OK? Ça a l'air impitoyable. Ça a l'air que le prophète qui va soutirer à la pauvre veuve les dernières choses qu'elle a. Oublie pas de me... Vas-y, fais ça. Mais oublie pas mon petit gâteau, hein? Je sais que vous dire ton petit gâteau, on comprend ce qu'on aurait le goût des fois. Mais le prophète, il met à l'épreuve. Peut-être que vous pensez que c'est une espèce de torture psychologique ou spirituelle, mais c'est pas ça la question. Il met à l'épreuve le défi de l'impossibilité. Est-ce qu'il va croire que c'est possible? Crains pas. Fais confiance. Crains pas. Fais comme tu as dit. Fais ce que tu prépares. Puis là, encore une fois, il faut voir l'image, là. Ce qu'elle va préparer pour le prophète, elle l'aura pas pour elle et pour son fils. Puis c'est encore une fois, moi j'aurais espéré que le prophète oublie, quand il dit, vas-y, fais ce que t'as dit, puis tu vas voir, ça va se produire. Non, fais ce que t'as dit, mais prépare-moi mon petit gâteau. N'oubliez pas, la demande était reliée au départ, hein, j'ai ordonné à une veuve de nourrir le prophète. Fait qu'on a l'impression, une fois, vous savez, on prend une pièce de théâtre incroyable avec ce thème-là, de cette pauvre veuve-là. Mais c'est le défi de l'impossibilité. C'est ça qui est passé devant elle. Le défi de l'impossibilité. C'est quoi l'impossibilité? C'est le caractère de ce qui n'est pas réaliste, qui est impossible à faire et à concevoir. La foi n'est pas dans le registre du possible. Il n'y a pas besoin de foi dans le possible. Ça prend juste de la raison. La foi est un registre supérieur. La foi, c'est quelque chose d'impossible se produire. La foi dit, moi, m'en occuper moi-même. C'est impossible. C'est justement, ça prend de la foi quand c'est impossible. C'est pas quand c'est possible, ça prend de la foi. C'est quand c'est impossible. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ça, cette dimension-là. Regardez bien la pensée et la leçon qu'on tire de ce contexte-là. La leçon numéro 6. Si la veuve s'était limitée à ce qu'elle voyait, farine, un petit peu d'huile, elle n'aurait pas eu accès à ce qu'elle ne voyait pas. Maintenant, elle dit, oh, OK. C'est mal 7. C'est bien sûr que si je vois ça, je vois pas autre chose, là. Que si je vois ce qui est visible, je vois pas ce qui est pas invisible. La réalité de la foi, c'est que la foi prend sa racine dans l'invisible. Par exemple, la Bible va dire que c'est par la foi que nous croyons que ce monde a été créé des choses invisibles. Vous savez qu'en ce moment, il y a des choses invisibles qui se passent dans cette salle. S'il y a des ondes radio et des ondes cellulaires, il y a tout un univers qui se passe et qui n'est pas accessible à notre vue. Quand on regarde juste à ce qu'on a, on oublie qu'il y a quelque chose de plus que cela, que Dieu a en réserve pour nous. Quand on se concentre et on se limite à quelque chose comme ça, quand on regarde au possible, on voit pas ce qui est impossible, ce qui est au-delà du possible. Et lorsqu'on regarde à cette dimension-là, et rationnellement, on se dit, écoute, ça peut pas marcher, c'est absolument impossible, est-ce que ça pourrait se produire? On se nourrit tous de ces choses-là. On a affaire à des scénarios, on regarde nos enfants, on regarde l'avenir, on regarde toutes les circonstances, le travail, tout ça, puis on se dit, c'est pas possible, c'est impossible. Mais la foi, elle relève le défi de l'impossibilité. Elle voit au-delà de tout cela. Elle voit au-delà de tout ce qui pourrait se passer. La veuve, si elle s'était limitée à ce qu'elle voyait, elle disait, c'est fini, je débarque, c'est fini, il n'y en a plus. Mais elle a cru, et là, elle a eu accès à la multiplication, au fait que l'huile n'a jamais manqué et que la farine n'a jamais manqué. Corrie ten Boom a dit, la foi voit l'invisible, croit l'invraisemblable et reçoit l'impossible. Ça, c'est la foi. Demandez aux musiciens de s'approcher pour la continuité. Septième défi. En fait, c'est justement ça, c'est le défi de la continuité. Le texte mentionne, la femme dit alors à Élie, un petit peu plus loin dans le texte, on a eu l'histoire que le fils meurt. La femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » C'est assez fascinant. Et comprenez bien qu'on ne sait pas, on n'a pas de détails sur le sens de ce verset-là. Parce que là, ce qu'elle dit au prophète, « Es-tu là pour me rappeler le souvenir de mon iniquité? » On ne sait pas si elle avait eu cet enfant-là hors mariage, on ne sait rien de la situation, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle, elle se dit dans sa tête, j'ai dû faire de quoi, moi, là? Okay? Ou ce que j'ai fait dans le passé, je pensais que Dieu me l'avait pardonné, ou que Dieu avait passé par-dessus ça, ou que Dieu avait mis ça de côté, puis là, c'est revenu. Et là, c'est l'attitude de beaucoup de gens dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, là, la phrase qui revient le plus souvent, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » C'est un Québécois, ça, ce sont Québécois de souche. Hein? J'ai dû faire de quoi? C'est vrai. Là, chacun de nous, si on passe quelques instants à se scanner, on va trouver des choses dans notre vie, c'est bien sûr. Je ne prie pas comme je devrais, je n'agis pas comme je devrais, je ne parle pas comme je devrais. Il y a toutes sortes de choses. Autrement, on est des êtres pécheurs. Et là, cette veuve-là se retrouve devant le prophète en disant, bon, là, c'est ça. Là, je viens de perdre mon fils. Là, le prophète est à la maison. J'ai perdu mon fils. Là, je suis faite. Puis, j'aurais jamais aimé que tu passes jamais dans ma vie que de me retrouver dans cette circonstance-là. Mais le défi qui se place dans ma vie, c'est le défi de la continuité. C'est-à-dire que la foi, c'est pas juste des éléments d'étape. La foi, c'est quelque chose qui doit être continué. Quand on parle de continuité, la dimension un petit peu de définition de la paix va apparaître à l'écran. C'est-à-dire le fait de durer sans interruption ou presque. C'est-à-dire la foi stable. Beaucoup de gens ont la foi comme un pneu de rechange. Tu roules dans la vie, tant que ça va bien, mais si jamais tu fais une crevaison, il faut que tu trouves ton pneu de rechange. Puis là, on se met à chercher la foi. Là, ça allait bien, je m'en allais à la vie, l'argent, le travail, la difficulté, les enfants, tu vois bien. Puis, paf, ça se met à déraper l'adolescence. OK, le travail, l'usine qui ferme et tout ça. Puis là, on cherche notre foi. Wow, la foi, c'est tout ce que j'ai mis, ma foi? OK, es-tu dans mon tiroir? Es-tu dans le cabanon dans la cour? Et où la foi? On la cherche, mais on ne réalise pas qu'il nous manque de continuité. Je parle de la foi dans la vie. Ça prend la foi dans la vie, dans toute la vie, dans chaque aspect de notre vie. Je ne parle pas de devenir des gens religieux, freak, comme on dit communément, mais que la foi imbibe chaque sphère de votre vie. C'est pas quelque chose qui se vit seulement le dimanche matin, mais c'est quelque chose qui imprègne chaque dimension de notre vie, et dans les petites choses comme dans les grandes choses. N'oubliez pas aussi qu'on a une histoire dans ce texte d'une pauvre veuve anonyme, qui est plus dans une circonstance incroyable, mais qui des circonstances sont vécues par toutes sortes de gens, de tout le pays qui vivent cette sécheresse, cette famine-là. Elle a la foi de la continuité. Elle a eu la réponse à cette dimension-là. La solution numéro 7. Si la veuve s'était limitée à ce qu'elle ressentait, elle n'aurait pas eu accès à ce qu'elle voulait. C'est la foi émotionnelle. C.S. Lewis a dit un jour, la foi est l'art de tenir à nos convictions malgré les changements de nos humeurs. Nous allons commencer à jouer tout doucement. Écoutez-moi bien ici un instant. On a tous un mood intérieur. Je vais sortir d'ici peut-être ce matin, par la grâce de Dieu, encouragé. C'est vrai, hein? C'est ce qu'on vit, tout ça. Là, ça me fait du bien, je vais croire. Si vous êtes un être humain normal, vous allez probablement fonctionner sur cette espèce d'élan d'encouragement-là pendant le reste de la journée. Les plus rapides vont perdre ça d'ici l'heure du repas ou chez Scores en certains. D'autres vont être capables de faire un gros pas jusqu'à 24 heures. Et beaucoup, vous allez manquer de continuité dans tout cela. Moi, je vais vous amener au-delà de tout ça. La foi, c'est pas quelque chose qui se base sur les humeurs. La peur va tuer la foi. Le doute va l'éventer, la foi. Mais la foi, c'est une conviction profonde. La Bible dit, c'est le dernier texte en conclusion ce matin, la foi est la ferme assurance des choses que j'espère. Une démonstration de celles que je ne vois pas. La foi, c'est pas sentimental, ça. Si on écoute aux sentiments, on a peur, puis on faillit, puis on lâche en cours de route, puis on abandonne en cours de route. La foi, c'est au-delà de tout cela. La foi, c'est en dépit des circonstances. La foi, ça amène le changement. La foi, ça amène les choses qui nous apparaissent impossibles, qui commencent à se manifester. La foi, c'est quelque chose qui change le cours de la vie. Je vais vous conter une anecdote qui m'est revenue à l'esprit le week-end dernier. Le week-end dernier, je suis allé à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Certains d'entre vous, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait 12-13 ans, maintenant je suis sur la Rive-Sud, mais j'étais pendant 8 ans à Sherbrooke, donc je connais bien des gens, puis j'ai été dans le ministère là-bas. Et je suis allé voir une dame qui s'appelle André Clément. Vous connaissez probablement pas la plupart d'entre vous, mais André Clément, c'est une dame qui est en charge de la Maison du Point-Tournant, un centre de réhabilitation pour jeunes filles en difficulté, une maison chrétienne avec laquelle on est beaucoup en relation ici. Et je suis allé la voir parce que sa mère est décédée les jours auparavant. Mais en jasant avec elle, dans son petit logement, simple, d'une femme d'un certain âge, je ne sais pas quel âge elle est rendue, maintenant proche 60, et elle s'est même de raconter des choses. Laissez-moi juste prendre quelques instants pour raconter son histoire. Il y a peut-être 25 ans de cela, j'étais dans ma localité d'origine, Drummondville, puis je travaillais auprès des jeunes en difficulté, puis des détenus et tout ça, des toxicomanes et tout ça. Et un jour, son frère était chrétien, et un jour, son frère vient me voir, puis il me dit, écoute, il dit, ma soeur a un de ses amis, qui c'est un détenu qui sort de prison, elle aimerait ça que tu le rencontres, elle a entendu parler de toi. Je dis, c'est pas de problème. On se retrouve autour d'une table de cuisine, on se met à jaser, puis j'essaie de convaincre les détenus d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Mais le problème qui est arrivé, c'est que lui, il n'a jamais accepté le Seigneur, c'est André Clément qui l'a accepté à la place. OK? Je ne sais pas comment ça se fait que ça s'est mêlé comme ça. Elle n'avait pas le droit, cette journée-là, c'était pour lui, mais plutôt elle l'a accepté, on l'a laissé faire. Et à partir du moment où elle a accepté le Seigneur, sa vie a été vraiment touchée. C'est une femme, c'est une femme seule. On peut être la qualifier d'occuper comme une veuve, la veuve de Sherbrooke, appelez-la comme vous voulez, elle n'a jamais été mariée. Et mais une femme seule qui vit ça, puis il y a à peu près une dizaine d'années, elle m'appelle. Elle me dit, Denis, elle dit, il y a des choses qu'il faut que je te parle par rapport à moi-même, que tu ne sais pas, de quoi tu veux me parler. Elle dit, j'ai déjà eu un enfant, moi. Je dis, hein? J'ai eu un enfant, j'étais sûr que je te connaissais, passé des heures avec toi, travailler avec moi et tout ça. Puis elle me raconte que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait eu un enfant. Et à cause de la pression familiale dans les années 60, elle, à la naissance de l'enfant, elle l'a envoyé à la crèche, comme on l'appelait à l'époque, elle l'a envoyé en adoption, elle l'a jamais revu. Puis il y a une dizaine d'années, dans un temps de prière, quelque chose a commencé à monter à l'intérieur d'elle, l'idée de retrouver ce fils-là, elle savait que c'est un garçon. Elle a commencé des démarches par les mesures que vous connaissez fort bien, retrouvailles, services sociaux et tout ça. Puis elle a retrouvé son fils, qui est à Québec, puis qui est toxicomane, qui est un abonné du centre partage, un centre d'aide du toxicomane. Puis là, son cœur est brisé, parce qu'on sent la culpabilité là-dedans, vous savez, ça avait été différent si je l'avais gardé et tout ça, mais il y a des choses qu'on peut pas faire, qu'on peut pas revenir en arrière. Et cette histoire-là, elle est exacte, j'en rajoute pas. Elle descend à Québec, elle va voir son fils, puis de fin d'année, son fils se convertit, et accepte Jésus comme son sauveur personnel, puis elle la ramène avec elle à Sherbrooke. Mais ce qui est fascinant, là, c'est une autre portion de l'histoire, c'est que pendant ces années-là, André aidait une jeune fille qui s'appelle Manon. Une jeune fille qu'elle a pris un petit peu, qu'elle appelle sa fille adoptive, mais elle l'a jamais adoptée légalement, mais elle a pris soin d'une fille, cette jeune fille-là. Des années ont passé. Puis Manon, bien sûr, un jour, a accepté le Seigneur dans sa vie comme son sauveur personnel. Et guess what, comme disent les Anglais, Michel se convertit, Manon est là, et les deux se rencontrent à l'église, à Sherbrooke, les deux tombent en amour, et l'adoptée marie l'adoptive. Comprenez-vous? Ils se sont rencontrés, puis maintenant, si vous allez à Sherbrooke, vous allez à l'église Carrefour Christian de l'Estrie, à Sherbrooke, vous allez voir un gars et une fille qui sont ensemble, qui sont mariés, qui sont heureux, qui aiment Jésus comme le sauveur, qui ont accepté Jésus comme le sauveur personnel, qui sont heureux dans la vie. Ils vécurent heureux et nul pas d'enfants, malheureusement. Mais tout ça est l'histoire de des choses qui peuvent changer des choses. Puis maintenant, vous voyez le déroulement, puis ça me dit qu'il va probablement en disquer parce que c'est un artiste, vraiment en disquer un CD bientôt de chant et tout ça. Cette fille-là est impliquée beaucoup dans l'église. Regardez comment le cours de la vie peut changer à partir du moment où on prend des décisions dans des circonstances. Là, je vous fais une histoire facile, mais c'est sûr qu'il y a eu des émotions au fil des ans. La foi a vacillé au travers de tout ça. Est-ce que j'ai bien fait? Mais quand on regarde le déroulement, et là, c'est là qu'il faut apprendre à se distancer parfois de la vie pour regarder un tout petit peu que, à certaines dates, à certains moments, à certaines années, si j'avais fait les choses différemment, j'aurais changé le cours de ma vie. Des fois, c'est un déménagement. Moi, je peux vous dire que s'il y a 12 ans, j'avais pas pris la décision de déménager, ça, je serais pas ici aujourd'hui probablement. Il y a toutes sortes de choses dans ma vie que ça serait pas produit. Ce ne serait pas produit, des gens que j'allais pas rencontrer, des contacts que j'avais pas eus. Fait que, voyez-vous, maintenant, on n'a pas toujours le pouvoir là-dessus. Mais lorsqu'on croit, qu'on écoute la voix de Dieu, c'est étonnant de voir que quand on met le pied dans cette direction-là, par la foi, les choses commencent à se produire. Êtes-vous encore avec moi ce matin? Moi, je sais pas ce que vous vivez ce matin. Je peux m'imaginer parce que je connais les gens. Mais une chose que je suis sûr, c'est que vous avez besoin de la foi dans la vie. Vous avez besoin de la foi dans votre vie, de chaque jour. On va chanter ce chant qu'on a chanté un petit peu plus tôt. Je vais demander à mon frère de commencer. Je vais demander de vous disposer intérieurement à cette réalité-là. Juste ouvrir vos yeux, les yeux de votre esprit plutôt, votre entendement. Et laissez le Seigneur ce matin vous parler par rapport à des circonstances de votre vie. Où vous voyez vraiment que votre foi a besoin d'être renforcée, d'être fortifiée. Votre foi a besoin d'être rafraîchi et que vous surtout prenez conscience ce matin que votre foi peut changer quelque chose. Prenez conscience ce matin que vous pouvez faire quelque chose qui va changer dans votre condition, dans votre vie. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Mon Jésus,
oui Seigneur Jésus,
mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton
amour.
Abrité, protégé par toi, je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
Je peux pas entendre vos voix.
l'Éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi.
À quoi avez-vous à faire face ce matin? Quels sont les défis que vous devez relever? Est-ce que c'est des moments d'adversité en ce moment que vous devez passer au travers? Est-ce que c'est une profonde insécurité qui vous habite et que vous ne lâchez jamais prise sur les gens, sur les situations, sur même parfois sur des choses en particulier? Est-ce que c'est le défi de l'incrédulité qui vous habite, que vous voudriez croire, mais qu'en dépit des efforts, vous ne croyez pas? Ne réussissez pas à croire et à faire confiance à Dieu, parfois même peut-être aux gens dans certaines circonstances. Quel défi vous avez relevé ce matin? Quelle leçon vous pouvez tirer de l'histoire de cette pauvre veuve anonyme? Ce matin, placez ces choses devant le Seigneur en disant, « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, tu es là, tu ne m'abandonnes pas, tu veilles sur moi, tu me regardes. Et tu es un peu comme ce prophète au Dieu, tu t'attends à moi de quelque chose, tu t'attends à ce que je te fasse confiance, tu t'attends à ce que je fasse des pas dans ta direction, tu t'attends à ce que je mette ma foi en action. Que ce soit pas quelque chose de tellement intérieur, ma foi, qui ne se manifeste pas dans la réalité de la vie de tous les jours. Placez ces choses devant le Seigneur ce matin, en disant, Seigneur, parle-moi, conduis-moi, dirige-moi, montre-moi ce que je dois faire, ce que je dois changer. Peut-être ce matin, cet après-midi, vous vous sentez faible et sans force. Demandez à Dieu qu'il vous fortifie. Le premier qu'il le ferait. Mais pas en vous évitant les situations auxquelles vous avez à faire face, mais en vous accompagnant au travers de ces circonstances, de ces événements, de ces situations auxquelles vous avez à faire face. Alléluia, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ces hommes et ces femmes ce matin. Seigneur, pendant longtemps, certains d'entre eux ont attendu après toi. Souvent te blâmant pour toutes sortes de choses dans leur vie sans réaliser que toi, tu attends après eux pour agir. Que tu attends après eux, Seigneur, tu es là, disponible, accessible, invisible, bien sûr. Et que seulement la foi pourrait enclencher une activité de ta part. Tu es là et tu veux tellement, Seigneur. Je prie que tu les convainques de ces choses par ton esprit ici en ce lieu en ce moment. Au-delà des mots, des paroles humaines ce matin, d'un prédicateur qui tente de convaincre, Seigneur, je prie que par ton esprit en ce moment, tu puisses toucher le cœur de ces hommes et de ces femmes. Qu'ils ressortent d'ici, en ce début d'après-midi, avec la conviction profonde que les choses peuvent changer. Que la foi, c'est quelque chose qui se manifeste dans la vie. Seigneur, scelle les paroles que tu désires sauvegarder dans leur cœur, dans leur âme, dans leur vie, Seigneur. Et que tout cela puisse s'activer à un point tel que les choses vont commencer à changer. Seigneur, sois honoré pour l'œuvre que tu fais maintenant. Je demande à ton nom précieux. Tout le monde dit Amen et Amen et Amen et Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle journée. N'oubliez pas de mettre en pratique la foi dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacune des occasions. Passez une belle journée.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.